et bienvenue dans Artichaut. On décortique cette semaine dans Artichaut le festival Scopitone du 12 au 16 octobre à Nantes, une rencontre entre la musique, l'image, le spectacle vivant et les arts numériques. Notre invité est donc Cédric Huchet, le programmateur des arts numériques du festival Scopitone. Quoi de neuf en fin d'émission, zoom sur le groupe Lucy in the Sky. Mais tout de suite, notre invité, Cédric Huchet, pour le festival Scopitone, dont on souhaite un joyeux anniversaire, puisque le festival souffle cette année ses 10 bougies. Le festival Scopitone, festival autour des musiques électroniques et des arts numériques, c'est à Nantes du 12 au 16 octobre. C'est la Force 10 cette année, l'édition, une 10e édition. Pour en parler, nous recevons donc Cédric Huchet, le programmateur des arts numériques. Cédric Huchet, bonjour.
Bonjour.
Alors, ce festival Scopitone ouvre la saison culturelle de Stéréolux.
Oui, c'est ça.
Alors, est-ce qu'on peut rappeler pour les auditeurs ce qu'est Stéréolux ? Et puis, avec une grande nouveauté cette année, c'est que vous vous installez dans des nouveaux lieux, la Fabrique.
Exactement ça, en fait. Bon, voilà, la Fabrique est un projet porté par la ville de Nantes qui intègre un certain nombre d'associations, dont Trampolino, Centre Info Musique Actuelle, Centre Ressources, dont Apo 33 sur le son expérimental, MIR sur le cinéma expérimental, et puis projet Stéréolux qui n'est autre que la suite du projet Olympique, donc qui a fermé ses portes au mois de mai dernier, pour vivre une nouvelle aventure au sein d'un nouvel équipement qui s'appelle Stéréolux et qui est situé pas très loin de l'éléphant, sur près des Nefs, sur l'île de Nantes, qui est un projet assez important et assez ambitieux, dans la mesure où l'équipement répond à un développement du projet autour de la diffusion musicale, de la diffusion des arts numériques, des créations, de l'action culturelle et de toute forme d'accompagnement dans le domaine des recherches ou de l'expérimentation sur les arts numériques. Donc, projet très ambitieux avec plus de place, plus de moyens techniques et plus de possibilités pour répondre à toutes ces formes qu'on connaissait finalement au sein de notre projet une fois l'an à travers Scopitone.
Alors, Scopitone, ce festival, c'est la 10e édition cette année.
Oui, c'est la 10e année qui célébrera effectivement le démarrage de saison et le démarrage du projet Stéréolux. Bon, il y aura eu quand même l'inauguration avant. Et puis après, nous, notre vraie démarrage de saison à Stéréolux, c'est Scopitone du 12 au 16 octobre, qui sera une édition particulière puisque nous quittons, enfin en tout cas en partie, l'univers des friches numériques, des friches des usines Alstom, que nous avions l'habitude d'occuper depuis 3 ans maintenant, qui était un peu le cœur du festival, et ce cœur du festival, très logiquement, il se déplace et il prend forme dans Stéréolux, où là finalement on a décidé d'ouvrir quasiment l'intégralité du bâtiment pour des propositions artistiques, des œuvres, des parcours d'expo à découvrir pendant 5 jours sur la mi-octobre. Et puis toujours ce petit parcours dans la ville qui nous amène à nous balader au sein du campus avec la soirée au TU et au pôle étudiant, qui nous amène aussi à nous promener du côté du château ou du lieu unique pour y découvrir des installations. Et puis le volet nuit électro, qui a quand même été conservé, c'est un peu la dernière festivité proposée aux Friches Alstom qui vont ensuite être fermées au public pour quelques temps de réhabilitation et de travaux. Mais c'était une façon un petit peu de célébrer aussi la fin de vie de ces superbes usines qu'on a connues sur les années précédentes de Scopitone.
Alors, Scopitone, ce sont des concerts, ce sont des expos, ce sont des performances, ce sont également des conférences. Cette 10e édition, qu'est-ce qu'elle aura de particulier ?
Ah, elle revêt pas mal de caractères particuliers, mais pour faire simple, déjà le bâtiment et l'équipement Stéréolux qui accueille aujourd'hui le cœur du festival nous a permis de nous laisser aller dans des recherches de propositions artistiques ou de formes assez innovantes, assez inédites, déconcertantes parfois. Ce qu'on a souhaité, c'est créer une espèce de fil conducteur dans Stéréolux qui permette au public, tout au long de la journée, de l'après-midi, du début de soirée et de la nuit, de se laisser glisser comme ça à des propositions artistiques très croisées, très très différentes les unes des autres, qui vont certainement surprendre un peu le spectateur, et par rapport à son rapport à l'œuvre, et par rapport à sa perception ou à aux sensations que ça va générer. Alors, il y a eu un fil conducteur plus marqué sur le champ des expositions, qui est autour de la lumière, où là, de façon très intuitive, le public peut venir découvrir des œuvres, des installations, et se laisser aller comme ça à laisser gambader son imaginaire au travers d'œuvres qui travaillent beaucoup sur la notion de lumière comme matière, comme volume, comme design ou architecture, des choses très fascinantes. Et puis autrement, des choses intéressantes à citer, c'est qu'il y a quelques artistes qui sont cette année-là présents sur plusieurs formes ou plusieurs projets. Donc on va retrouver sur le champ d'un concert ou d'un set électro ou d'une performance, qui seront aussi présents sous la forme d'une projection, notamment au cinéma 14A, ou d'œuvres exposées dans le parcours d'installation qu'on a sur les différents lieux. Donc ça, c'est vraiment intéressant de s'attarder un peu sur ces artistes, dont on voit d'ailleurs aujourd'hui qu'avec les outils multimédia et dans le champ des arts numériques, ils laissent aller libre cours à leur imagination dans des répertoires et des esthétiques très complémentaires et très différentes à la fois.
Oh, la lumière, le son, ça nous entoure tous les jours. Et là, on le voit en tant que matière, le son également.
Le son également, il y a quelques performances, quelques installations qui font appel à des diffusions, ce qu'on appelle la diffusion multicanale, c'est-à-dire des diffusions sur plusieurs points sonores qui donnent cette sensation d'immersion, cette sensation d'être baigné, complètement plongé dans l'œuvre, et qui vient aussi troubler la perception du spectateur ou les sens. Ça, c'est des choses intéressantes parce que finalement, derrière l'art numérique, l'art digital, qui sont des termes un peu barbares et qui peuvent effrayer les non-initiés, finalement, on se rend compte que tous les publics sont sensibles à ça, quel que soit leur âge, quelle que soit leur habitude d'appropriation des éléments culturels. Et du coup, tous les publics se laissent aller d'une part à la découverte, mais ensuite au jeu aussi, au jeu de vivre dans l'œuvre, d'évoluer dedans, de la capturer ou de la capter différemment. Et ces œuvres-là sont quand même en général, et les performances aussi, sont quand même très très intuitives. C'est les sens qui parlent en premier.
Et vous parliez donc de tous les publics. Le jeune public, évidemment, n'est pas oublié.
Non.
Les scolaires également, il y a vraiment une partie intégrante pour eux.
Exactement, il y a des visites tous les jours avec des scolaires pour faire un peu le parcours que feront les plus grands dans l'après-midi ou la soirée, mais avec une entrée un peu plus pédagogique. Et puis, il y a aussi des ateliers qui sont menés avec des jeunes, qui sont souvent, enfin tout le temps d'ailleurs, des ateliers qui amènent à une démarche de création. On n'est pas uniquement dans la démonstration d'un outil ou d'un procédé technique, on est plus dans l'accompagnement, c'est mené avec des artistes qui montrent comment créer et qui permettent de faire aboutir une démarche créative chez un public qui finalement, tout en étant amateur, n'en a pas moins une certaine forme d'inspiration. 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alors, c'est la 10e édition. Scopitone, au fil des années, a trouvé son public. D'où vient-il ?
Le public vient en grande majorité, on va dire, de la très grande couronne nantaise. Mais globalement, ça brasse aujourd'hui un public qui concerne à peu près tout le Grand Ouest, de la Bretagne au sud-sud Vendée. Après, on a aussi quelques publics qui viennent de la région parisienne. C'est en général les publics les plus avertis qui suivent un peu ce genre de manifestation. Et puis on a, c'est assez marrant, on a depuis quelques temps déjà pas mal de publics frontaliers, des pays frontaliers d'Europe, qui viennent faire un saut. C'est souvent pour eux l'occasion d'une petite escale nantaise qui rayonne au loin comme une ville où il y a beaucoup de choses à voir et beaucoup de choses à faire. Et voilà, ils viennent flâner et on a régulièrement un petit quota d'Allemands, de Belges, d'Espagnols, d'Anglais qui viennent faire un petit tour au festival. Sachant qu'on a dans la programmation quelque chose de très diversifié aussi sur la cinquantaine d'artistes proposés. Il y a bien évidemment une part belle aux artistes français, mais il y a aussi beaucoup de leurs homologues européens, voire plus loin cette année, parce qu'on aura des Japonais.
Oui, j'allais le dire justement, ça va jusqu'au Japon.
Le Japon, l'Australie, le Canada sont représentés et joliment représentés cette année avec des œuvres tout à fait exceptionnelles. Et voilà, c'est une façon de brasser aussi tout ça et toutes les cultures. Le langage de la création artistique et de l'art numérique est quelque chose d'universel et de très très accessible, encore une fois.
Et ça veut dire aussi que Scopitone est une référence en matière d'art numérique. Vous avez parlé d'innovation tout à l'heure. On sait que ça va très très vite dans ce domaine.
Ça va très vite, ça bouge très vite. C'est aussi précisément l'objet d'un projet comme Stereolux. C'est d'accompagner les démarches de recherche et d'expérimentation sur ces nouvelles formes. Et c'est vraiment quelque chose à laquelle on est très attentif, c'est-à-dire que creuser, expérimenter, chercher, tester des formes un peu hybrides, c'est l'une des forces ou l'une des orientations fortes du projet Stereolux. Alors, Scopitone fait partie d'un réseau de festivals aujourd'hui qui a, on va dire, une petite renommée sur ce terrain-là. C'est pas le seul, il y en a beaucoup en Europe. Mais du coup, ça nous permet aussi d'échanger beaucoup, de discuter, de confronter nos points de vue. Et puis, bien évidemment, de se passer quelques idées intéressantes pour nos programmations respectives. Mais ça évolue effectivement très très vite et les comportements évoluent très très vite. Ça, c'est la génération Internet, évidemment, c'est la démocratisation des accès aux outils multimédia, bon, voilà, toute une série de phénomènes sociaux qu'on suit de près et qu'on accompagne dans la démarche de création artistique.
Voilà, et surtout ça permet de redécouvrir des sens, voilà, comme l'ouïe, comme l'oreille, le son, la lumière,
le toucher,
les images.
Exactement, l'orientation, l'équilibre, la perception de l'espace. Pour vous citer deux trois trucs un peu insolites, vous pourrez vous promener dans une forêt d'élastique, complètement improbable, qui reconstitue une espèce de nuage de pixels dans laquelle on se balade. Vous pourrez évoluer à travers une œuvre tentaculaire qui investit l'intégralité du bâtiment et raconte une histoire tout au fil de la semaine de Scopitone. Vous pourrez jouer avec des petites bestioles virtuelles qui crapahutent dans le sable et qu'on peut guider ou faire se croiser. Vous pourrez avoir des troubles de la perception visuelle sur des visions, sur des lignes de fuite. Je lance des choses un petit peu folles comme ça, un petit peu virtuelles dans les mots, mais qui ont une réalité bien présente pendant le festival et qui, le public nous l'a déjà bien démontré, fascine très rapidement tous les âges, toutes les générations, toutes les catégories sociales.
Alors Cédric Huchet, pour terminer, donc là on a jeté quelques exemples de ce qui attend le public au Festival Scopitone. Il y a un site internet, les informations pratiques.
Il y a un site internet qui est le www.scopitone.org. On retrouve tout ça aussi bien évidemment en lien sur le site de Stereolux. C'est la même chose avec stereolux.org. Les billetteries sont déjà en vente. Il y a beaucoup de choses en accès libre, notamment tous les après-midi.
Oui, c'est important de le dire aussi. Il y a vraiment une démocratisation aussi de cette
Exactement.
Culture électronique
expos,
et des arts numériques.
Toutes les expos, toutes les installs sont visibles en accès libre, que ce soit au lieu unique, que ce soit au château, que ce soit à l'école d'architecture, que ce soit chez nous toute la journée. Après, il y a des activités de soirée, de performance, de concert le soir. Les nuits électro démarrent très très fort. Elles représentent une fière scène française, majoritairement française pour le coup, qui n'a rien à envier à leurs homologues étrangers en matière de création de musique électro. Donc ça démarre très fort, il faut le suivre de près si jamais ça vous intéresse. Et puis pour ce qui est du reste, des soirées à Stéréolux, c'est un peu le nouveau format aussi de Scopitone cette année, c'est des soirées qui s'étirent un petit peu le mercredi, le vendredi et le samedi, et qui la donnent à voir des performances, des sets, des concerts qui se succèdent à un rythme presque effréné, mais qui donnent à voir un très très beau panel de toute la création multimédia aujourd'hui. Donc voilà, on ne peut que vous inciter à tenter la découverte.
Bah, très bien, merci beaucoup Cédric Huchet, donc programmateur des arts numériques au Festival Scopitone, donc du 12 au 16 octobre, et c'est à Nantes. Merci.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
bruit à l'instant dans Artichaut de bruit qui est dans la playlist du festival Scopitone qui a lieu cette semaine du 12 au 16 octobre à Nantes. On remercie donc Cédric Huchet, le programmateur des arts numériques du festival, d'avoir répondu à nos questions. Sans plus tarder, quoi de neuf ?
Relax. Make yourself as comfortable as possible.
Quoi de neuf vous présente aujourd'hui Lucy in the Sky. Lucy in the Sky prend son envol en 2008 quand Lucy rencontre Benjamin. Il lui donnera l'impulsion nécessaire pour se lancer. En 2009, alors choriste, guitariste d'Anaïs, Lucy profite des creux de la tournée pour composer. Anaïs découvre par hasard le projet et donne à Lucy l'opportunité de faire la première partie de ses shows. Et une mini tournée de l'urgence se met en place lors de laquelle la voix exceptionnelle de Lucy fera mouche à chaque fois. Lucy part alors sur les routes de France, jouer dans des petits lieux indépendants où elle remplira de couleurs vives et de sons électriques les yeux et les oreilles d'un public grandissant. Le 23 mai 2011, le premier EP totalement autoproduit de Lucy in the Sky débarque sur les plateformes de téléchargement. Lucy s'empresse alors de partir en tournée pour présenter son nouveau spectacle où on retrouve l'univers tout particulier de Lucy in the Sky. Optimiste, fun, léger, mais aussi désinvolte et rock'n'roll. C'était La Paresseuse, donc extrait du premier EP de Lucy in the Sky à découvrir dans l'oscillation musicale de Fréquence Sillée.
Relax, make yourself as comfortable as possible.
Artichaut, c'est terminé, à la semaine prochaine.
Slow down, Mr. Bongo.